Merci d'écouter RFI. 8h à Washington et à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi.
Anne Contner.
Dernière partie sur le continent américain avec Haïti à la une et les déclarations qui se veulent rassurantes des États-Unis. Le secrétaire d'État contredit les informations des derniers jours, affirme que l'aide à la mission multinationale en Haïti n'est pas suspendue. Au contraire, Marco Rubio dit avoir débloqué plus de 40 millions de dollars pour la police haïtienne et pour cette mission censée lutter contre les gangs. Notre confrère Franz Duval du journal Le Nouvelliste sera en ligne avec nous dans quelques minutes. Nous appellerons aussi notre correspondant en Équateur pour faire le bilan de la campagne électorale qui prend fin aujourd'hui. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand pour parler des résultats financiers du groupe GBH.
Ils ont été enfin, entre guillemets, publiés. Nous entendrons tout à l'heure la réaction de l'avocat Maître Portejoie et la réponse du directeur général du groupe Bernard Ayotte.
À tout à l'heure. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité internationale avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et la France, pour commencer, qui dispose enfin d'un budget pour 2025?
Oui, le projet de budget de l'État français a été définitivement adopté ce matin au Parlement. Un ultime vote au Sénat a suivi l'adoption sans vote hier à l'Assemblée. Écoutez le résultat du vote dans la bouche de Sylvie Robert, vice-présidente du Sénat.
Pour 219 contre 107. Le projet de loi est donc définitivement adopté.
Voilà, symbolisé par ce bruit de clochette, l'adoption définitive du budget intervient avec des mois de retard. Le gouvernement de Michel Barnier n'y aura pas survécu, contrairement à celui de François Bayrou, qui n'a pas été censuré hier, ni par le Parti Socialiste, ni par le Rassemblement National. Mais il reste encore une étape à franchir, Justine Fontaine.
Oui, le texte doit encore passer l'étape du Conseil constitutionnel, qui peut censurer certaines mesures. Le doute pèse sur l'avenir de deux d'entre elles en particulier, la taxation des revenus des plus riches, et la taxation des très grandes entreprises. François Bayrou et son équipe en attendent 10 milliards d'euros cette année. Mais comme le budget est en retard, cela pourrait poser problème, car il n'est pas possible de prélever des impôts et des taxes de manière rétroactive. Le gouvernement assure avoir trouvé une manière de prélever cet argent tout en respectant ce principe de non-rétroactivité de l'impôt. Mais il n'est pas certain à ce stade que le Conseil constitutionnel valide ce montage. Et ce n'est pas tout, car au-delà de cette étape, il y a aussi des doutes sur la solidité du budget, car il reposerait sur des hypothèses trop optimistes selon le Haut Conseil pour les finances publiques. Par exemple, la perspective de croissance pour cette année, 0,9% pour le gouvernement, mais c'est 0,8 ou 0,7 seulement pour bon nombre d'économistes. Une différence qui paraît faible, mais qui peut diminuer fortement les recettes de l'État et donc remettre en cause l'engagement pris auprès de l'Europe de revenir à 5,4% de déficit public à la fin de l'année.
Justine Fontaine, merci. J'ajoute que la France a terminé l'année 2024 avec 6% de déficit public. Elle attend à la fin du mois la note de l'agence Standard & Poor's. Une baisse de la note pourrait rendre plus cher les emprunts effectués par l'État français.
Aux États-Unis, les opposants à Donald Trump font entendre leur voix.
Oui, depuis le retour à la Maison-Blanche du milliardaire républicain il y a 2 semaines, on assiste à des manifestations et à des rassemblements d'opposants. Exemple hier avec une action contre la fermeture annoncée de l'Agence américaine pour le développement et l'aide internationale. Reportage à Washington de Guillaume Naudin.
Ils sont plusieurs centaines devant le Capitole. Certains d'entre eux ne sont plus payés depuis le début de la semaine, depuis que le responsable du nouveau département de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk, leur a coupé les vivres. Mais pour Ariana, qui brandit une pancarte contre le milliardaire, il n'y a pas que les employés qui sont touchés.
Il y a 8 enfants en Afrique qui sont en train d'attraper le VIH chaque jour à cause de ce stoppage. Il y a des enfants en train de mourir à cause du manquement de choses à manger. Il y a des médicaments au port qui ne peuvent pas sortir. C'est vraiment grave.
Mais l'USAID n'est que l'une des agences à être dans le viseur. Et pour Ariana, de nombreux Américains vont bientôt s'en rendre compte.
Aujourd'hui, c'est l'USAID. Demain, c'est le département de l'éducation. Après, c'est les autres départements. Et ça va commencer à avoir un impact sur les vies des Américains dans notre pays. Donc, on va commencer à vivre les conséquences. On ne va pas juste accepter tout ça. sans résistance. On est en train de manifester, on va être comme les Français, on va rien accepter.
La méthode américaine, ce serait plutôt de contester en justice des décisions que les manifestants considèrent comme illégales, mais le temps que les procédures suivent leur cours, les conséquences pourraient être irrémédiables. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Un énième imbroglio diplomatique autour du canal de Panama.
Oui, l'administration du canal a immédiatement démenti l'annonce faite par les États-Unis. Les navires de guerre américains auraient été autorisés à emprunter gratuitement l'ouvrage. Lila Alcunuara, bonjour.
Bonjour.
Se met la confusion, Lila, est-ce une stratégie délibérée de l'administration Trump ?
Oui, le Panama a donné son accord pour ne plus faire payer les navires américains. Ça va faire économiser des millions de dollars. Voilà ce qu'a déclaré hier soir le département d'État dans un message publié sur son compte X. La diplomatie américaine s'abandonne-t-elle à un nouveau genre de communication, la prophétie autoréalisatrice ? Car ce n'est pas du tout ce qu'a dit l'autorité du canal du Panama, l'entité autonome qui administre la voie d'eau interocéanique et fixe les péages. L'agence panaméenne a très vite démenti l'affirmation de Washington. Il n'y a eu aucun ajustement tarifaire. Or, c'est précisément l'exigence de Donald Trump. Les États-Unis ne devraient pas payer de taxes à l'entrée et à la sortie du canal alors qu'ils participent à la défense du passage maritime. Mais ce qui inquiète Washington, c'est surtout l'influence croissante de la Chine. Un conglomérat hongkongais gère deux ports aux embouchures du canal, une menace pour les intérêts américains, selon l'administration Trump. Pas rancunière, l'autorité du canal a laissé la porte ouverte. De nouveaux pourparlers sur les tarifs doivent avoir lieu demain entre les deux pays.
Lila Alcunuara en direct dans ce journal. Merci à vous. L'Ukraine reçoit les premiers Mirage 2000 promis par la France. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, annonce que les premiers avions de combat cédés à Kiev ont été livrés pour aider l'Ukraine à défendre son espace aérien contre la Russie, sans précision du ministre sur le nombre d'appareils en question. En République démocratique du Congo, le groupe armé M23 continue son offensive dans la province du Sud-Kivu avec le soutien de l'armée rwandaise. Il vient de s'emparer de la localité de Nyambibwe, située à une centaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. À Goma, l'AFC, qui est la vitrine politique du M23, tenait ce matin son premier meeting. Elle a annoncé la nomination d'autorités parallèles dans cette ville dont elle a pris le contrôle la semaine dernière. Au Bangladesh, scène d'émeutes et destruction. Plus de 6 mois après la chute de Sheikh Hasina, les tensions ne retombent pas. On a vu hier des centaines de personnes détruire des sites liés à l'ancienne Premier ministre, renversée en août dernier après des semaines de manifestations étudiantes. L'image de l'ex-dirigeante partie à l'étranger reste sulfureuse dans le pays. Ces émeutes ont notamment visé le musée dédié au père de Sheikh Hasina, une figure de l'indépendance. Reportage de Nicolas Roca.
Des hommes qui fracassent les murs à l'aide de barres de fer, des flammes qui envahissent l'ancienne maison de Sheikh Mujibur Rahman et puis un bulldozer qui vient achever la destruction de ce lieu hautement symbolique. Sur les réseaux sociaux, les images impressionnantes rappellent celles d'août dernier, les jours qui suivaient la chute du régime lorsque les bâtiments en lien avec la Ligue Awami, le parti au pouvoir, avaient subi les foudres des manifestants. Cette fois, c'est la perspective d'une prise de parole de Sheikh Hasina qui a déchaîné la violence de la foule. Pourquoi ont-ils peur d'une maison ? N'ai-je rien fait pour le pays ? Émue aux larmes, la dirigeante a pris la parole sur Facebook depuis l'Inde où elle est exilée. Réponse sur le même réseau social du mouvement étudiant. Nous devons libérer la terre sainte du fascisme, justifiait l'un des leaders du mouvement dans son appel à la manifestation. Pour Nordine Drissi, directeur du cabinet d'expertise et de conseil ND Consultants et spécialiste du Bangladesh, ce mouvement est avant tout motivé par
une soif de justice pénale, justice sociale. Et ce qui se passe là, dans cette destruction, c'est aussi une revanche de la part d'une frange de la société bangladaise.
L'ancienne première ministre est exilée en Inde et n'a pas été inquiétée pour les morts durant les manifestations ou bien pour les centaines de disparitions forcées.
Nicolas Roca, voilà, c'est la fin du journal. Mais l'information continue avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain et nous allons d'abord en Haïti.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Pour parler de cette mise au point du secrétaire d'État américain, contrairement à ce qui avait été annoncé, les États-Unis ne suspendent pas leur financement à la mission multinationale, celle qui doit aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Marco Rubio l'a assuré hier en arrivant en République dominicaine et l'ambassade américaine à Port-au-Prince a donné quelques précisions sur lesquelles nous allons revenir avec notre confrère, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Donc non seulement les États-Unis ne se désengagent pas, mais en plus on apprend qu'ils viennent d'apporter un soutien supplémentaire.
Tout à fait, ils ne se désengagent pas, ils ont tout simplement gelé la partie de leur contribution qui passait à travers un fonds qui était géré par les Nations Unies. Alors c'est plutôt cet aspect-là qui est gelé pour le moment, mais directement sur le terrain, les États-Unis sont encore le principal contributeur à la mission de multilatérale d'appui à la sécurité, et on dirait même en Haïti, depuis l'arrivée de l'administration Trump, il y a eu un support supplémentaire, il y a eu l'arrivée de contingents nouveaux. D'autres encore sont prévus pour aujourd'hui. Il y a des équipements qui sont arrivés. Et le secrétaire d'État Rubio a fait l'annonce que 40 millions de dollars seront disponibles pour la mission pour les mois qui viennent. Pour le moment, c'est un ouf de soulagement du côté de Port-au-Prince. La mission va encore rester et avoir l'appui des autorités américaines.
Alors, Marco Rubio donc a fait ses annonces en arrivant en République dominicaine. Il ne viendra pas à Port-au-Prince, mais Haïti sera bien évoqué lors de cette visite.
Tout à fait, Haïti est évoqué à chaque passage de Marco Rubio dans un des pays de la Caraïbe. Haïti est évoqué pour deux raisons. D'abord, pour les questions migratoires, parce que les Haïtiens passent par les autres pays de l'Amérique latine ces derniers temps pour essayer d'entrer aux États-Unis. Haïti est concerné par ce qui se passe en Amérique latine aussi et vers la frontière sud des États-Unis. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont concernés. Et aussi, particulièrement à Saint-Domingue, il y a l'histoire de la crise haïtienne, cette crise qui n'en finit pas, la partie qui concerne la sécurité et aussi la partie qui concerne l'effondrement économique d'Haïti. Tout ça pèse sur le voisin principal d'Haïti, qui est la République dominicaine. Et M. Rubio est justement en République dominicaine pour parler avec le président Abinader.
Donc, il sera question aussi de sécurité, vous nous le disiez, alors que la situation continue de se dégrader en Haïti, notamment à Kinskov, sous la menace d'une attaque imminente, après déjà un premier assaut des gangs il y a une dizaine de jours. Le maire nous disait hier avoir encore du mal à établir un bilan des violences. On peut en lire un dans votre journal, France, 150 morts et plus d'une centaine de maisons incendiées.
Comme souvent, quand il y a des attaques en Haïti, des violences, des crimes, ce sont les organismes de défense des droits humains qui établissent les rapports préliminaires et l'ONU qui viendra peut-être d'ici un mois, d'ici deux mois, avec un rapport définitif. Les autorités haïtiennes n'ont jamais pu établir un bilan précis parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils sont incapables de défendre les gens. Ils préfèrent ne pas émettre de bilan. Il n'y a pas de bilan pour le moment officiel pour ce qui se passe à Kinskov, ni pour les pertes en vie humaine, ni pour le nombre de blessés, ni même pour les maisons incendiées, parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans toute la commune. Les autorités se taisent, mais ça, les Haïtiens sont habitués à ça. Et le FGCALE, qui est un organisme de défense des droits humains, a établi un premier bilan préliminaire, au moins 150 morts et des centaines de maisons qui ont été incendiées, de commerces qui ont été pillés et des gens qui sont aujourd'hui devenus des réfugiés dans une petite commune montagneuse, tranquille, et qui vivait tranquillement jusqu'à présent et qui s'est retrouvée au cœur de l'enfer avec l'attaque des gangs.
Et au-delà de Kinskov, le niveau de violence et le nombre de victimes augmentent partout encore. C'est ce que montre le dernier rapport du Bureau des Nations Unies.
Plus de 1700 morts pour les trois derniers mois de 2024. Beaucoup d'enlèvements, beaucoup de cas de violence sur les femmes, sur les jeunes filles, beaucoup de blessés. C'est le bilan, je dirais, c'est quasiment le bilan répétitif, trimestre après trimestre, établi par les Nations Unies. C'est le bilan des violences, des crimes, des atrocités qui sont commises en Haïti, atrocités qui n'arrêtent pas, malheureusement.
Merci Franz Duval. Je profite de vous avoir en ligne pour vous présenter des vœux d'anniversaire puisque ça fait 40 ans que vous travaillez pour Le Nouvelliste, un journal que vous avez d'abord lu. C'est un peu comme ça d'ailleurs que vous aviez été en contact pour la première fois avec la rédaction. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ?
Alors ça a commencé parce que j'écoutais quand on me lisait le journal quand j'étais enfant. Ensuite, je suis devenu lecteur. Ensuite, j'ai adressé une lettre à un journaliste célèbre de l'époque qui deviendra rédacteur en chef du Nouvelliste quelques années plus tard, qui s'appelait Carlo Desinor. Une lettre d'opinion, c'était en 1985. C'est comme ça que je suis arrivé au Nouvelliste. Ensuite, j'ai eu à diriger avec d'autres amis de faculté le journal de l'université et je suis revenu au Nouvelliste comme responsable de la section économique. Je partage une longue histoire avec le Nouvelliste, d'abord une collaboration bénévole, ensuite comme salarié. Et depuis 15 ans, je suis le rédacteur en chef du Novelis. Et pour moi, c'est une belle histoire, une belle aventure humaine.
40 ans avec ce journal. Merci Franz Duval, rédacteur en chef donc aujourd'hui de ce grand quotidien haïtien. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine sur cette antenne, on peut vous lire bien sûr sur le site lenouveliste.com.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On parlait de l'implication américaine aux côtés d'Haïti. La question du soutien des États-Unis, elle se pose pour la plupart des pays du continent depuis la suspension de l'agence de développement USAID. Cela risque d'avoir des conséquences particulièrement lourdes pour la Colombie. Le pays s'apprêtait à recevoir environ 400 millions de dollars cette année, plus que n'importe quel autre du continent, Marie-Ève de Teuf.
La Colombie accuse le coup. La suspension de l'aide américaine est une catastrophe pour des dizaines d'organisations non gouvernementales qui travaillent sur le terrain. Tous les secteurs sont touchés, de la défense des droits de l'homme à la protection de l'Amazonie, en passant par la lutte anticorruption ou l'aide aux migrants. Petit rappel, la Colombie a vu transiter en 10 ans plus de 6 millions de Vénézuéliens qui fuyaient leur pays. Les ONG qui travaillent dans les régions les plus durement touchées par le conflit armé et dans les régions productrices de coca, ce sont souvent les mêmes, ont d'ores et déjà annoncé l'interruption de plusieurs de leurs programmes d'action. Pour Leon Valencia, qui dirige l'ONG Pares, les Américains, grands consommateurs de cocaïne, sont en partie responsables du conflit colombien. Leur aide n'est pas un cadeau. Le président de gauche, Gustavo Petro, a lui aussi critiqué la décision américaine, tout en faisant savoir qu'il n'entendait rien qu'émander. La question de l'aide militaire attribuée par Washington dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic n'a pas encore été évoquée. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Il est 13h16 en temps universel, 8h16 à Quito, en Équateur. Dernier jour de campagne aujourd'hui dans le pays. C'est à la une de la presse que vous avez lu pour nous, Achim Lippold.
Oui, et le journal El Comercio met en avant, comme d'autres quotidiens, l'importance du vote des jeunes, une force clé, écrit El Comercio, avec plus de 3 millions d'électeurs potentiels, selon La Hora. Leurs priorités sont claires, la sécurité, des emplois décents, c'est-à-dire bien payés, et un meilleur accès à l'éducation, faute de pouvoir intégrer l'université. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans l'économie informelle, une main-d'œuvre bon marché dans un pays où la précarité alimente l'immigration, écrit La Hora.
Et pour parler plus en détail de cette campagne, Arim, nous sommes en direct avec notre correspondant en Équateur. Bonjour Eric Sanson.
Bonjour.
Nous sommes à 3 jours maintenant de la présidentielle pour laquelle sont donnés en tête le sortant Daniel Noboa et Luisa González, soutenue elle par l'ancien dirigeant Rafael Correa. D'autres élections sont prévues le même jour, dimanche, pour choisir les députés et pour choisir aussi les parlementaires andins, ceux qui siègent au sein de l'organe régional qui réunit, en plus de l'Équateur, la Bolivie, le Chili, le Pérou et la Colombie. Alors pendant cette campagne, il a beaucoup été question de lutte contre la délinquance et contre la criminalité, Eric, et il restera une image particulièrement marquante.
Oui, c'est celle d'un bébé de 9 mois, une petite fille qui a été trouvée toute seule en train de ramper par terre sur une route isolée de la paroisse Atahualpa dans la province côtière de Santa Elena. Quelques heures plus tard, 500 mètres plus loin, les habitants ont trouvé le corps de sa mère assassinée de plusieurs balles dans la tête. La petite fille a été remise à sa famille, mais les habitants ont encore du mal à croire que l'on puisse abandonner un bébé dans ces conditions. Et pourtant, les gens ne devraient pas être surpris. À raison d'un assassinat toutes les heures depuis le 1er janvier, l'Équateur vit son début d'année le plus violent. C'est ce qui explique pourquoi cette campagne électorale est plus négative que politique, comme nous l'explique le politologue Gustavo Hisch.
La peur a été le fil conducteur de toute la campagne électorale depuis pratiquement 14 mois. Et le gouvernement a su exploiter cette peur efficacement. Les gens ont peur de tout, de perdre leur emploi, de tomber malade et que la sécurité sociale n'ait plus d'argent. La peur d'être victime de la délinquance, peur que leurs enfants soient enlevés ou peur que leur entreprise soit victime d'extorsion.
Alors pendant cette campagne, Eric, le président sortant, Noboa, a vanté sa guerre contre le trafic de drogue. Est-ce que le message est passé ?
Eh bien, Daniel Noboa a mis en avant les résultats obtenus depuis un peu plus d'un an lorsqu'il a déclaré l'état de conflit armé. Depuis janvier 2024, il a militarisé la lutte contre 22 groupes armés organisés qui sont désormais reconnus comme terroristes. Une mesure qui d'ailleurs vient d'être étendue au train d'Aragua, une bande vénézuélienne extrêmement violente. Près de 295 tonnes de drogue ont été saisies l'an dernier, c'est considérable. C'est plus du tiers de la quantité de drogue qui circulerait dans le pays. même s'il est évidemment difficile d'avoir des chiffres précis. Le président parle d'une baisse de 14% des morts violentes, de 8000 en 2023 à un peu moins de 7000 l'an dernier. Reste que le président avait promis de louer 3 navires prison et de construire 2 nouveaux centres de détention sur le modèle des prisons du président Bukele au Salvador. Eh bien, les prisons navires ne sont jamais arrivées et la construction d'une nouvelle prison est pour l'heure paralysée suite à une attaque de tueurs à gages. Noboa va fermer la frontière avec la Colombie et le Pérou du 8 au 10 février, car il affirme qu'il y aura des tentatives de déstabilisation de la part de groupes armés. Il a militarisé les ports et renforcé la présence militaire en zone frontière.
Concernant cette présence militaire, justement, cette action militaire, on peut rappeler que 4 enfants et adolescents de la ville de Guayaquil avaient été retrouvés morts en décembre dernier après avoir été arrêtés par une patrouille de l'armée de l'air. Est-ce que ce scandale pourrait avoir une influence sur le vote des Équatoriens ?
Apparemment, non. Ce scandale n'aura pas de conséquences électorales. C'est en tout cas l'avis de Santiago Basabe, professeur de relations internationales et de sciences politiques.
Je crois que l'image des militaires a été très peu affectée. Notre société recherche la sécurité, quel que soit le coût, pour une bonne partie de la population. L'assassinat lamentable des 4 jeunes à Guayaquil est un coût qu'elle est prête à assumer. Sinon, on ne comprendrait pas que la popularité du président reste stable.
Si, et ce d'autant plus que Daniel Noboa a été incapable de citer les prénoms des enfants assassinés lors du débat présidentiel de janvier dernier. Des 15 autres candidats présidentiels, celle qui a les moyens de l'emporter, c'est Luisa González du parti de l'ancien chef d'État Rafael Correa. Elle aussi a promis plus de sécurité, mais tout en respectant les droits humains. Le parti coréiste a traditionnellement une base solide de 30 à 35% des électeurs, même si l'an dernier, certains cadres du parti ont commencé à prendre un peu de distance avec l'ancien président. Il sera intéressant de voir si le parti de Correa arrive à dépasser son plafond de verre et à être présent lors d'un éventuel deuxième tour le 13 avril prochain. Il faudra aussi suivre les élections législatives sans avoir trop d'illusions. Des 2089 candidats, 733 ont oublié de déclarer leurs impôts au moins une fois depuis 7 ans. 153 ont des dettes envers le fisc et 236 ont fait l'objet de plaintes pour corruption, abus de confiance, calomnie, violence, délinquance organisée et même assassinat.
Éric Sanson, correspondant à Quito et en direct de la capitale équatorienne, on suivra avec vous ces élections présidentielles et parlementaires qui sont prévues ce dimanche en Équateur.
RFI, The World's Voices.
On prend maintenant la direction des États-Unis pour la suite de votre revue de presse, Achim Leipold, où plusieurs États républicains emboîtent le pas à Donald Trump et adoptent à leur tour des mesures très radicales en matière d'immigration.
Oui, le Washington Post parle d'une véritable surenchère des lois anti-immigration alors que les sessions législatives de 2025 débutent à travers tout le pays. Des États conservateurs proposent des projets de loi de plus en plus restrictifs. Des textes qui, s'y sont adoptés, pourraient restreindre encore davantage la vie des migrants. Exemple, au Missouri et au Mississippi, des parlementaires souhaitent autoriser des chasseurs de primes à arrêter des immigrés sans papier avec des primes de 1000 dollars pour toute information, mais non à des arrestations, écrit le Washington Post. Autre initiative, au Tennessee, où un élu veut faire payer des frais aux parents qui inscrivent des enfants en situation irrégulière dans des écoles publiques. Il a même baptisé sa proposition la loi Trump, Trump pour Tennessee Reduction of Unlawful Migrant Placement.
Mais c'est au Texas, Arim, qu'on trouve la législation la plus dure.
Exactement. Prise d'empreintes digitales des enfants sans papier, interdiction d'accès à l'aide juridique financée par des fonds publics ou création d'une unité spéciale de la police des frontières autorisée à expulser des migrants arrêtés près de la frontière. D'après le Washington Post, cette vague de propositions anti-immigration, la plus importante depuis 10 ans, remet en cause des protections juridiques de longue date qui garantissent, en tout cas jusqu'à présent, l'accès aux services de santé, d'éducation et aussi une assistance légale pour les migrants en situation illégale.
Et toutes ces mesures et ces expulsions massives, elles pourraient avoir un impact économique majeur sur plusieurs pays d'Amérique latine.
Exactement, c'est ce que nous explique le journal brésilien Folha de São Paulo. Certains pays dépendent en fait fortement de ces remessas, hein, vous savez, de ces sommes envoyées par les migrants à leurs familles restées au pays. Selon la Banque interaméricaine de développement, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, le Guatemala et Haïti tirent entre 20 et 25% de leur PIB de ces transferts, des revenus essentiels donc pour des familles souvent composées de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Dans son reportage, Folia de Sao Paulo donne la parole à une femme autochtone de l'état de Chiapas, c'est au Mexique. Elle élève seule ses enfants grâce à l'argent que lui envoie son mari, qui est ouvrier agricole en Géorgie, aux États-Unis. Et ce dernier vit, explique-t-elle à Folia de Sao Paulo, dans la peur constante d'être arrêté, même en allant simplement acheter des tortillas et des haricots aux États-Unis.
Autre sujet à lire dans la presse nord-américaine, Harry, mais là encore, il s'agit d'une décision de Donald Trump, d'un décret qui vise à interdire aux athlètes transgenres de participer à des compétitions féminines sportives.
Oui. Exactement, la guerre contre le sport féminin est terminée, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump hier lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, sous les applaudissements d'athlètes invités pour l'occasion, de jeunes athlètes. Une photo de cette cérémonie est d'ailleurs publiée un peu partout aujourd'hui dans la presse. Alors concrètement, ce décret prévoit de suspendre les subventions fédérales aux écoles qui autorisent des élèves transgenres à rejoindre des équipes féminines. Pour Politico, il s'agit d'un nouvel épisode de la guerre culturelle menée par Donald Trump, qui cible aussi les soins liés au changement de genre pour les mineurs, ainsi que les politiques de diversité et d'inclusion. Les organisations LGBTQ+, tirent la sonnette d'alarme. Ils rappellent que ce type de mesure aggrave la stigmatisation d'un groupe déjà exposé à des taux très élevés de dépression et de suicide.
Votre revue de presse à Rimli Paul d'a retrouvé sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, il a fallu insister un peu, mais cette fois c'est fait. GBH, le groupe Bernard Raillot, a publié ses comptes et il révèle une belle santé financière, ce qui n'est pas vraiment une surprise.
227 millions de bénéfices, 227 millions d'euros bien sûr de bénéfices en 2023, chiffre en hausse de 11% par rapport à 2022. Écoutez la réaction de l'avocat qui représente des citoyens martiniquais qui ont porté plainte contre GBH pour, entre autres, abus de position dominante, maître Renaud Portejoie.
La marge commerciale est absolument ahurissante, c'est-à-dire que le différentiel entre les prix d'achat et les prix de vente en moyenne sont environ 15 points au-dessus de ce qui peut se faire dans des domaines d'activité similaires, ce qui veut dire que cette société s'enrichit sur le dos des consommateurs. Je constate aussi, c'est un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est que GBH détient 2 milliards d'euros de réserves, alors 1 milliard d'euros en stock, mais 1 milliard d'euros d'avance en créances et surtout en disponibilité. Ils ont 400 millions d'euros sur leur compte courant d'avance, disponible immédiatement. C'est encore une fois un chiffre vertigineux qu'il faut mettre en perspective avec le discours qui avait été tenu par ses responsables lors des tables rondes sur la vie chère en octobre, qui consistait à dire qu'ils étaient quasiment exsangues, qu'ils ne pouvaient pas faire plus d'efforts dans l'intérêt des populations pour baisser les prix. Et aujourd'hui, nous constatons que cela n'est pas vrai.
Réponse et réaction de Stéphane Ayotte, directeur général de GBH. Il répondait ce matin en direct sur les ondes de la Première Martinique aux questions de Grégory Gabour.
Ce résultat de 227 millions d'euros correspond à 4,6% de notre chiffre d'affaires. Notre bénéfice sur les 5 dernières années a représenté en moyenne 4% de notre chiffre d'affaires. Ça n'a rien d'excessif. C'est le résultat que font des entreprises de taille équivalente à la nôtre sur l'Hexagone. Quand vous avez... nous avons 18 000 collaborateurs. Nous avons 2 100 collaborateurs à la Martinique. Il est important pour un groupe de cette dimension d'avoir ces résultats, je rappelle 4% de son chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui lui permet de réinvestir. Nous déposons tous les ans, depuis toujours, nos comptes à l'administration fiscale, mais nous ne souhaitions pas en faire la publicité pour donner cette information à nos concurrents. Mais comme tout le monde, on a bien vu que les temps changent, que la volonté et qu'au fond, l'inconvénient à ne pas le faire crée de la suspicion, et nous avons souhaité en toute transparence, les déposer, déposer les comptes consolidés. Nous ne le faisons pas en catimini. Nous vous avons envoyé hier, ainsi qu'à aux autres médias, un communiqué détaillant et expliquant dans le détail nos comptes pour une bonne compréhension. Et je suis venu ce matin devant vous pour justement en parler.
Stéphane Ayotte, directeur général du groupe Bernard Ayotte. Affaire à suivre, évidemment. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix, avec l'auteur Claro, aujourd'hui, comme invité écrivain et traducteur. Très bonne journée à tous.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Entre Beyrouth et Paris, Jean-Jean Marclouf vit au jour le jour les épreuves de son pays. Un pays amer, comme le titre de son nouveau roman, où pourtant l'écrivaine choisit à travers le destin de deux femmes photographes de raconter la beauté du Liban malgré les violences. Un hommage aux combattantes.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.